Il est écrit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde afin que et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant d'arriver à ce que je voudrais vous dire, je voudrais parler de la croyance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça veut dire quoi? Croire en quelqu'un. Croire en quelqu'un. Mes amis, pour ceux qui savent aller à vélo ou à moto, je ne parle pas encore de la voiture. Et la première fois qu'on vous donne un vélo, vous mettez ça sur la béquille ou bien, non, est-ce que c'est une béquille, je n'en sais rien, mais sur son support, mais, ou bien contre un mur, contre quelque chose. Et plus tard, si vous acceptez de croire en un déplacement à vélo, vous commencez par essayer. Mais vous avez comme but, vous voyez déjà le jour où vous pourrez être en équilibre, vous aussi, sur deux roues, quelle que soit la voie, sur deux roues, vous voyez déjà en équilibre, ou certains sur un vélo qui ne va pas vite pour que ce soit la propulsion. Mais parfois même, vous arrêtez presque avant de tourner. Mais vous êtes quand même, vous avez vos pieds sur les pédales, vous tenez le guidon. Et vous voyez, ça vous arrive même de ne pas tenir le guidon, de laisser le vélo, de pédaler. Parfois, de ne pas pédaler, de ne pas tenir le guidon. Il y en a même qui mettent leurs pieds sur le guidon et le vélo avance. Il y en a qui font n'importe quelle acrobatie sur le vélo en mettant une seule main sur la selle et en levant l'autre main avec les pieds. Le vélo avance et mais ils sont sûrs qu'ils ne tomberont pas. Et les autres admirent. Et la croyance, ce sont des comportements que nous avons chaque jour. Et je crois que c'est de l'eau. Je vois un liquide clair dans une bouteille, mais je suis sûr que c'est de l'eau. Ce n'est pas de l'acide. Je pense là, sans faire attention, j'ai vraiment soif, que ce soit glacé ou non, je pense ça. Et je suis à l'aise. Vous pouvez voir quelque chose qui ressemble à du spaghetti. Mais avant de pouvoir manger ça, vous êtes sûr que c'est du spaghetti parce qu'il y a aussi du plastique, de l'élastique, qui peut prendre la forme du spaghetti, et toute matière qui peut prendre la forme du spaghetti, mais qui ne sont pas du tout de la nourriture. Mais parce que vous êtes sûr, vous avez cette assurance que c'est du spaghetti, parce que quand vous êtes arrivé, une personne vous a dit que vous voulez acheter cul ou non cul, en tout cas qu'on l'ait fait à la maison, ou que vous voulez acheter quelque chose. Vous savez que c'est fait pour être mangé et vous n'avez pas de doute que vous mangez. Et nous croyons même plus loin, notre croyance va plus loin dans notre vie quotidienne, au point où nous rencontrons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et nous avons acheté une marchandise à 500 francs. Il nous dit qu'il n'a pas de monnaie. Il me demande d'attendre. Il dit qu'il va courir voir des amis, d'autres marchands pour nous apporter la monnaie. Et nous croyons, nous attendons. Nous sommes là-bas. Nous attendons. Et dans la vie courante, nous croyons beaucoup. Nous voyons les nuages et nous sommes sûrs qu'il y aura la pluie. Et nous savons donner des solutions déjà à des problèmes que nous connaissons, que nous avons vécu. Mais lorsqu'il s'agit de la croyance en Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu, nous voyons que c'est très difficile pour nous de croire. C'est très difficile pour nous de croire. Et en nous donnant que cette parole, ce soit, je vous assure que je n'ai pas de doute que chacun d'entre nous dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je n'ai pas de doute que chacun le dit. Mais Dieu, lui, il a tant aimé le monde, nous a aimés. Il a donné son Fils unique. Non seulement il nous a aimés, mais il nous l'a prouvé en donnant son Fils unique. Non seulement il a donné son Fils unique, mais il est prêt à nous donner la vie éternelle. Et il nous a demandé de croire en ce Fils unique. La partie qui nous concerne devient, je ne peux pas dire si c'est difficile, mais est-ce que ce n'est pas devenu juste des paroles en l'air? Est-ce que nous verrons, est-ce que nous arrivons même pendant tout un mois de savoir, de nous rappeler que Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils unique, il est en train de la vie éternelle pourvu que nous croyons en Jésus-Christ. Je ne parle pas de nos adorations, de nos prédications. Je ne parle pas de nos écoutes de la parole de Dieu. Je ne parle pas de tout ce que nous faisons, des dons, des offrandes, de tout ce que nous faisons pour qu'on nous appelle chrétiens ou bien pour que nous appelions chrétiens. Je parle de notre relation avec Jésus-Christ. J'ai dit tout de suite que nous chantons, nous prêchons, nous croyons en Christ. Non, non, nous disons, nous proclamons que nous croyons en Christ. Qu'est-ce qui nous montre dans notre vie que nous croyons en Christ? Je voudrais vous dire une chose qui m'a été révélée cette semaine. Ce que j'ai vu m'a tellement fait peur. Ce que j'ai vu m'a tellement fait peur. Et je voudrais vous dire combien nous devons faire attention. Je ne veux pas vous donner toute la révélation, je vais vous donner une partie de la révélation. Mais ce que je vous dirai, ça fait partie de la révélation. J'étais dans un temple. J'étais quelque part où il y avait des gens ils étaient nombreux, très nombreux. On dirait une grande fête. J'ai vu un ancien diacre. C'est un diacre qui est mort. Ça doit faire au moins 35, peut-être 40 ans ou plus. Je n'en sais rien. J'ai vu un ancien diacre. C'est lui qui prêchait à l'intérieur de l'église. C'est lui qui devrait prêcher à l'intérieur de l'église. Donc, moi, je ne savais même pas, je savais qu'il y a une église là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait un culte. Donc, je suis rentré et j'ai vu plein de personnes. Des gens qui sont morts il y a longtemps et ceux qui sont vivants. Certains qui sont morts sont des catholiques. La bonne partie sont des protestants. J'ai vu des gens dehors, une population dehors, c'est des catholiques. Et le diacre qui devait prêcher, quand il m'a vu entrer, il m'a dit, ah, heureusement que tu es arrivé. Je ne me porte pas bien, j'ai une petite fièvre, je n'ai pas une bonne santé. Et donc, c'est à toi d'aller prêcher. Tu prends la place pour prêcher. Donc, j'avais ma Bible. J'avais ma Bible, celle avec laquelle je prêche ici. Et je suis allé à l'hôtel pour prêcher. Et quand je suis arrivé, le verset qui m'a été donné, je l'ai lu en français, puis je me suis rendu compte que dans cette église, la prédication se fait en éveil. Et que la Bible qu'il fallait lire était une Bible errée. Alors j'ai dit, j'ai laissé ma Bible et j'ai dit, passez-moi une Bible errée, s'il vous plaît. L'église était pleine. J'ai commencé par demander une Bible errée à ceux qui sont devant. Les gens avaient une Bible. Mais cette Bible, l'évangile qu'on m'a donné, c'est l'évangile de Luc. Mais dans cette Bible, je cherche l'évangile de Luc, même je ne trouve pas. Il y a des titres, des livres, mais ce n'est même pas en hébreu, c'est en une langue. Est-ce que c'est de l'allemand? C'est du chinois? Je n'en sais rien. Je vois des choses écrites en gras. C'est un désordre. Dans ce livre, qu'on me donnait, comme la Bible éveillée. Je vous assure que je ne parle pas, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de Bible, qu'il n'y avait pas de livre dans l'Église. Il y avait des livres dans l'Église. Ce que les gens m'entendaient comme Bible aînée n'était ni une Bible, ni une Bible en hébreu. Mais seulement que, à bien voir ce livre, j'ai demandé une Bible hébreu. Et dans toute l'église, chacun avait. Tout le monde qui me tendait sa Bible, c'était un livre dans lequel, en tout cas, je ne pense pas que ce livre, même s'il doit avoir des passages bibliques, je ne voyais pas très bien en quoi ce livre était une Bible et moins encore une Bible aimée. Quand je cherchais la Bible et que les gens m'étendaient leur Bible et que je disais que ce n'était pas ça la Bible et que ce n'était pas une Bible aimée, ils n'étaient pas préoccupés, ils souriaient, ça, ils étaient indifférents. Et n'ayant pas trouvé une Bible à l'intérieur, je suis sorti. J'ai trouvé une jeune dame. Son mari était à l'extérieur, mais son mari est mort. J'ai trouvé la jeune dame qui sortait de sa maison. Je lui ai dit, mais je vais appeler par son nom. Est-ce que tu ne peux pas me trouver une Bible évêque? Une traduction de la Bible en évêque. Elle a dit oui. Elle est allée chercher la Bible. Et c'est le même document qu'elle m'a envoyé. J'ai attendu le monde. Qu'il a donné son fils unique. Et qu'il est prêt à nous donner la vie éternelle. Quoi? Pourvu que nous croyons. Et donc, je suis revenu à l'intérieur. Le temps de revenir à l'intérieur pour faire la prédication. Je vous ai dit que moi, j'avais ma Bible en français et que j'ai lu le passage en français et je me suis dit que, ah non, la prédication ne se fait pas en français ici. Donc, il me faut une Bible en hébreu. Et j'ai commencé à chercher dans toute l'église qui était pleine d'une traduction hébreu. Je n'ai pas trouvé un seul livre qui est une Bible. Encore moins une Bible en hébreu. Je disais que quand j'étais revenu, quand j'étais sorti pour chercher la Bible, je suis revenu. L'église était complètement vide. Je n'ai plus vu personne. Mais le temps, je ne suis pas allé loin. Si j'ai pris du temps, ça doit être 2 à 3 minutes. J'arrive, il n'y avait plus personne à l'intérieur de l'église. cette église qui était pleine avec des gens qui semblaient être des chrétiens, mais pas des enfants, des gens qui avaient de l'âge. Ces gens m'entendaient tous un livre qui n'était pas une vie. J'ai été scandalisé. Au point où j'ai crié, mais avant de sortir dehors pour demander à quelqu'un s'il n'a pas une Bible à lever, j'ai dit, mais vous ici, vous ne lisez pas la Bible? Après le culte de dimanche, vous ne lisez pas la Bible? Mais qu'est-ce que vous lisez alors? Et je suis sorti pour demander une Bible. Je suis revenu. Il n'y avait plus personne dans le temps. J'étais en train de regarder la scène, je me dis, mais ils sont partis où? Et d'un seul coup, je vois encore le temple qui est plein. Chacun est encore assis comme avant, mais maintenant avec un plat de riz, une fourchette, et ils étaient en train de manger avec joie. Je me suis demandé, mais c'est quelle scène ça? C'est horrible. Comment vous pouvez manger à l'intérieur de l'église? Ils avaient même apporté les grandes casseroles de riz, de sauce qui étaient mises à côté et tout le monde avait un bon plat de riz. Chacun mangeait. Regardez la scène, je vous épargne le reste. Et puis quelqu'un m'a approché pour me dire ce que tu peux faire. Au fait, je vous ai dit que c'était plein, c'était dans un lieu très plein, c'était comme s'il y avait une fête. Et donc, il y avait beaucoup de monde. Et quelqu'un m'a approché pour me dire ce que je vais faire la prochaine fois. C'est de mettre une tente dehors, une tente blanche dehors, et peut-être de les inviter là-bas pour qu'ils viennent manger là-bas, de manger à l'intérieur du temple. Je me suis réveillé avec une grande peur. Parce que les gens que j'ai vus, je les connais. Et ce n'est pas la révélation, dans la révélation que je voyais, dans la révélation, j'ai vu que les gens ne sont pas avec Christ. Mais j'ai toujours pensé que, je n'ai jamais été à l'aise avec leur compréhension de la vie éternelle de Dieu, de Jésus-Christ. Mais mieux encore, ce dont je parle ici, à part le diacre qui est venu me demander de prêcher. Et je n'ai pas vu que même parmi les diacres, même ce diacre, je ne sais pas, on ne l'a pas montré comme quelqu'un, je ne lui ai pas demandé une Bible en épée. Mais c'est un diacre qui est mort, ça fait longtemps. Et ce qui m'a fait peur quand je me suis réveillé, c'est que ce diacre fait partie des deux personnes qui ont écrit l'histoire de cette église. Et quand tu lis l'histoire de cette église, tu vois comment les anciens se sont battus pour recevoir Christ. pour fonder l'église, etc. Mais quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu te demandes si l'église n'est pas devenue une association de personnes qui viennent passer les dimanches ou même des séances de prière pour se donner un peu de joie, un peu de vie et pour se faire enterrer comme il se doit avec faste le jour où il partirait un jour. J'ai eu peur, j'ai prié. Je vous ai demandé, alors, si ces parents Saint-Pierre répétaient dans toutes les églises, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous pensez que cette parole a eu un impact sur les hommes qui viennent à l'église? Qui croit? Qui a cru à la prédication? Qui croit? Qui sont ceux qui Ça m'a fait mal de voir tout ce grand monde et de comprendre qu'il n'y a personne qui est une bienvenue comme je suis. Voilà ce que la parole que Dieu m'a révélée, l'évangile. J'ai entendu quand le diacre m'a dit, je me porte mal, c'est moi qui dois prêcher, mais je me porte mal. Ah, heureusement, tu es arrivé. Tu vas me remplacer, tu vas m'aider pour prêcher. Et que je suis arrivé avec ma Bible, ma traduction française. J'ai entendu Luc 3, verset 17. Je l'ai lu. Dans la révélation, je l'ai lu. La révélation dit, accrochez, et je l'ai lu en français, attachez-vous à ce qui est essentiel. Accrochez, non, pas à ce qui est essentiel. Accrochez-vous à l'essentiel. Attachez-vous à l'essentiel. L'essentiel. Donc, voilà le titre de notre partage d'aujourd'hui. Attachons-nous à l'essentiel. Dans cette église, personne ne s'attachait à l'essentiel. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai cherché Luc 3, verset 17. Luc 3, verset 17 dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il s'agit de la même parole. Ici, l'essentiel. C'est la personne qui distingue le blé de la paille. La paille n'est pas l'essentiel. Or, dans cette église, on dirait que les gens n'ont pas choisi l'essentiel. Ils ont choisi la paille et non le blé. Dans notre adoration de Jésus-Christ, Luc 3, verset 17, c'est un passage de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Qui a fait la distinction entre son ministère et le ministère de Jésus-Christ, il dit très bien que lui, il baptise d'eau. Mais celui qui vient est plus puissant que lui, et qui n'est même pas digne de délier la courroie de ses souliers, et que lui, il nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'essentiel, souvenez-vous de Corneille et de sa maison. Jusqu'à Corneille, Pierre croyait qu'il fallait nécessairement baptiser les gens comme Jean-Baptiste est venu le faire et imposer la main à ces gens-là. Et que ces gens devaient être nécessairement des Israélites pour recevoir le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas encore fait la, comment on peut l'appeler, l'expérience des païens que lui pensait être des idolâtres, des pécheurs qui reçoivent directement le Saint-Esprit de Dieu. Il n'avait pas encore fait l'expérience de même des Israélites qui n'ont pas été baptisés et qui peuvent recevoir l'Esprit Saint. L'essentiel, Dieu a montré à Pierre que l'essentiel n'est pas je ne mange pas de viande impure, je ne mange pas d'animal impur, je ne fais pas ceci. L'essentiel, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es le blé. N'oubliez pas que la paille a été dans le même champ, nourri par la même terre. Mais si cette paille n'a pas porté de grains de blé, l'essentiel n'est pas sorti de ce champ. Il faut que les fleurs de blé, les fleurs mâles donnent des pollens qui viennent féconder les fleurs femelles pour donner ce qu'on appelle le grain. Et ce grain de blé qui a amassé, qui est l'essentiel, c'est quelque chose que nous devons accepter comme étant effectivement l'essentiel. Ce n'est pas la partie, le grain de blé n'est pas la partie qui est la partie la plus belle lorsqu'on met des tas de blé qui ont mûri. Ce n'est pas, vous ne voyez même pas parfois le blé, mais ces petits grains, ce sont ces petits grains qui sont l'essentiel. Attachez-vous à l'essentiel. Dans l'air, essayez de sortir l'essentiel au lieu de tourner autour des grosses pailles qui ne donneront rien, qui seront brûlées. Dans notre adoration, dans notre croyance, beaucoup de gens se sont Ils sont donnés des bois qu'on appelle les grosses pailles qui seront brûlées. Ils font et ils donnent tout le soin à la paille et oublient d'entretenir l'essentiel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Je vais finir là-bas en vous demandant encore pour vous, comment vous pourriez dire aujourd'hui que vous croyez? Comment nous pourrions dire aujourd'hui que nous croyons en Jésus? Cette parole a été prononcée il y a plus de 2000 ans. C'est quoi croire en Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit qui fait que et qui fait que nous pourrions nous-mêmes, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat et que j'ai la couronne. La couronne m'est réservée. Le bon combat de... Quand je dis attachez-vous à l'essentiel, c'est que Paul s'est attaché à l'essentiel. Attachons-nous à l'essentiel, c'est ça le titre. C'est ça, Luc 3, 17, qu'on m'a donné. C'est ce que moi j'ai lu dans ma Bible en français, dans la Révélation. Et quand je me suis levé, j'ai vu j'ai pris la Bible, je vois Luc 3, 17, et c'est là où il y a la question de la paille, de l'herbe, de la paille, du grain, etc. Et du feu, etc. Vous savez, si vous ouvrez la Bible, il est dit que il faut prendre des pigeons, aller faire des sacrifices, il faut prendre des chèvres, des brebis, même des veaux, aller faire des sacrifices. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que la Bible... Et pourquoi vous parlez de parole et je vous dis préciser les choses? Est-ce que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que vous irez prendre un veau aujourd'hui, faire un autel et sacrifier des veaux ou des brebis sur l'autel? Qu'est-ce que Jésus-Christ a laissé? Quel est le message central que Jésus-Christ a laissé que les chrétiens doivent saisir pour que Dieu sache que et saisir et pratiquer pour que Dieu dise oui, vous avez compris la parole de Dieu. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, Jean 16. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. OK. Est-ce que vous voyez que malgré le fait de revenir sur ces choses tout le temps, nous n'avons pas encore mis ça en pratique. Il y a eu Adam et Ève, il y a eu Noé, il y a Abraham, il y a eu Abraham, il y a eu Jacob, il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu les juges. Et un moment où tout était un peu mélangé en Israël, il y a eu les rois, il y a eu la déportation, il y a eu le retour à Jérusalem, etc. Et puis Dieu s'est tu. Et puis plus tard, il y a eu Jésus-Christ qui est arrivé. Et quand vous suivez tout ça, il y a eu de l'évolution dans la démarche de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit sacrifié sur la croix, versant son sang, qui a racheté nos péchés. Donc, on dit les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Et même dans Colossiens 1, est écrit. Colossiens 1, verset 12, il est écrit: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'était Colossiens 1 à partir du verset 12. Et je pense que nous pourrons maintenant conclure. Attachez-vous, attachons-nous à l'essentiel. Luc 3, verset 17, c'est comme ça que je l'ai reçu dans la révélation. Et dans la Bible, quand j'ai pris la Bible, j'ai vu que il n'est question que Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ sera là. Et lui, il mettra de côté l'essentiel, ceux qui auront cru en lui. Et avec le Saint-Esprit, croire en Jésus-Christ est très simple. Croire en Jésus-Christ, tout simplement, veut dire tout simplement être sûr que la parole qui vous guide vient du Saint-Esprit. Quand nous disons la parole, ça vient du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit aujourd'hui, prends un bélier et va faire un sacrifice, j'irai le faire. Mais si le Saint-Esprit ne me le dit pas, c'est fini. Cette affaire n'est plus à l'ordre du jour. Donc, ce qui veut dire que je peux aller faire des dons, voir que j'ai fait des offrandes, des sacrifices. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me révèle cela, c'est contre-productif. Ce n'est pas Dieu. Donc, si le Saint-Esprit me dit, va prendre un bœuf pour faire une offrande, je dois être capable de, je dois être capable de, de faire exactement ce que Dieu m'a demandé. Pas autre chose. Je ne dois pas passer mon temps à m'expliquer ou à désobéir, à faire, à dire non, ce n'est pas ça qui est écrit. Parce que Jésus-Christ dit, il y a des choses. Si je vous l'ai dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas les supporter, pas croire même. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas supporter ça, vous allez trouver ça bizarre. Et quand vous allez dans les temples, moi, la révélation que j'ai eue, ce n'est pas parce que les gens ne prient pas. Ce n'est pas parce que les gens ne font pas des jeûnes, ne veillent pas, ne vont pas à l'église. Mais c'est que la parole n'est pas allée au-delà. Les comportements ne sont pas allés au-delà de ce qui se trouve dans la Bible. Personne ne prend au sérieux le Saint-Esprit qui nous est envoyé pour nous soutenir. Personne ne prend au sérieux, personne n'attend la parole du Saint-Esprit et personne ne se prend au sérieux ce que le Saint-Esprit dit. Malheureusement, Jésus-Christ ne sera pas, ne reviendra pas dire une deuxième fois. Quand il a dit une première fois, quand on n'a pas été obéissant, ce n'est pas sûr que nous pourrons rattraper. Ne serait pas sûr que nous pourrons rattraper notre vie éternelle. Je m'arrête là. Poser la question de savoir si nous, au moins, nous pratiquons ce qui est recommandé par Jésus-Christ. Si nous ne pratiquons pas ce qui est recommandé par Jésus-Christ, nous ne voulons pas entendre les choses qui sont, que Jésus-Christ qualifie d'insupportables pour nous. Nous ne voulons pas être obéissants dans ce sens. Nous passerons à côté de la vérité de la vie qui est la parole de Dieu. Qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Je suis abondamment.